urbain du futur. Actuellement, les chercheurs en sciences sociales étudient les espaces urbains non seulement comme des constructions, mais comme des espaces qui eux aussi construisent, renforcent et encouragent des pratiques et des identités particulières. La réalité de la métropole, avec sa division d'espace et son symbolisme, incite des modes de vie et des modes de pensée, divise les gens selon un nombre de facteurs variés et en quelque sorte définit les possibilités d'une existence dans cet environnement urbain. En tant qu'anthropologue, je comprends les espaces dans lesquels on vit non pas comme des décors passifs, mais comme des constructions actives, pensées par quelqu'un, dans un but plus ou moins précis, on espère bien, et forcément motivées par une idéologie ou philosophie quelconque. Par exemple, on apprécie aujourd'hui la facilité de mouvement sur les grands boulevards de M. Haussmann à Paris, mais on pense rarement au fait que leur construction, c'était tout d'abord un acte policier, pour intégrer le pouvoir de l'État dans l'espace de vie des citoyens. Quelles seront les formes et les fonctions des espaces urbains du futur? Pour discuter cette question aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 4 auteurs différents. D'abord, M. Philippe Aubert-Côté, qui a eu sa formation en biologie et en bioéthique, mais qui a découvert l'écriture il y a une dizaine d'années. Une révélation pour lui qui aboutit à son activité actuelle d'écrivain de science-fiction. Richard Morgan, qui lui aussi est romancier de science-fiction, et auteur des romans tels que Altered Carbon et Black Man. Maintenant, son œuvre va s'étendre de la page au grand et au petit écran, dans une série Netflix et plusieurs films potentiels. Anne Leroux, notre troisième auteur, est auteur de science-fiction, notamment La Vestale de Calix et sa suite La Fille Geek. Son œuvre se situe dans une science-fiction comique, féministe, matinée du récit d'aventure. Et finalement, Eugène Feng a été formé en physique et économie avant d'être reconnu pour son écriture. Ah oui, non seulement auteur de science-fiction, mais aussi des nouvelles et des romans réalistes. Et notre traducteur, Gunaël Gaffric, qui est traducteur littéraire et spécialiste de science-fiction en langue chinoise. Donc, pour commencer, on va faire le tour de la table un petit peu pour avoir une idée de votre vision des espaces urbains du futur. Commençons avec Philippe.
C'est une vaste question. Personnellement, je n'ai pas de formation en urbanisme et ni en architecture, donc j'ai jamais eu une réflexion quant à imaginer à quoi ressemblerait physiquement la ville du futur. J'ai collectionné des articles, parus dans Sciences et Vie, Sciences et Avenir ou La Recherche, où on décrivait des cités souterraines ou en hauteur, qui avaient tout en commun justement de limiter l'étalement urbain. Un élément, par exemple, quand j'ai réfléchi à cette table ronde qui m'a interpellé, c'est que je me suis posé beaucoup de questions sur l'organisation, je dirais, sociale ou politique de la cité du futur. Je crois que beaucoup d'auteurs de science-fiction pensent à l'aspect physique de ces cités, comment on va répartir la population, envoyer certaines catégories d'individus à certains endroits, comment gérer l'énergie et les déchets, des problèmes concrets. Mais des fois, je me demande si on ne délaisse pas des fois certains aspects politiques ou sociaux. Je vais m'expliquer. C'est qu'au Québec, on a eu une réflexion il y a quelques années. On a fait des travaux au gouvernement sur l'avenir énergétique du Québec, entre autres. Et il y a eu des colloques lors du congrès de l'ACFAS, l'Association canadienne-française pour le savoir, tu sais, qui est un gros congrès qui réunit beaucoup de chercheurs universitaires de tout le Canada, mais de la France, de l'Europe et des États-Unis. Et certains chercheurs disaient que pour penser la ville du futur, il allait falloir peut-être repenser l'autonomie des villes, surtout dans une perspective de développement durable. Certains chercheurs avançaient qu'un pays vaste comme le Canada, par exemple, c'est insensé que le gouvernement central impose des normes à toutes les villes pour être éco-responsables, pour être carboneutres, parce que la réalité de ces villes n'est pas la même. Je prends un exemple. Si, sur le plan énergétique, demander à une ville comme Montréal de fonder toute son énergie sur l'électricité éolienne, ça pourrait sembler être une bonne chose. L'éolienne, c'est carboneutre. Le problème, c'est qu'au Québec, on a déjà l'hydroélectricité en quantité, mais abondante. On a un réseau hydrographique assez phénoménal qui a été aménagé dans les années 60 et 70. On a aménagé des bassins versants pour des barrages tellement grands, même que ça a même changé un peu l'inclinaison de la Terre, pour dire que le Québec est capable de renverser la planète si on le veut. C'est dit. Et donc, nous, de nous imposer cette solution énergétique-là, ça ne marcherait pas, alors que ça pourrait marcher ailleurs. Et il y a beaucoup d'initiatives au Québec aussi qui ont vu le jour, des gens qui voudraient faire de l'agriculture urbaine, des choses comme ça, mais qui se heurtent à des législations centrales qui leur interdisent de faire ça. Et certains chercheurs, donc, avançaient l'idée que pour penser la ville du futur, il va peut-être falloir repenser la relation entre les villes et l'État. Redonner aux villes une certaine autonomie pour que chacune mette en place leur propre solution pour garantir un meilleur environnement. Je vois juste un autre exemple rapidement qui m'est revenu à l'esprit. Dans la région d'où je viens, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a mis en place un système de traitement des déchets où on ramasse les déchets et on les fait dégrader par des bactéries dans des champs. Ça génère une quantité de chaleur phénoménale, mais on obtient du compost. Plutôt que de l'enfouir puis de laisser ça, de laisser polluer le sol avec ces déchets-là, on les recycle. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut se le permettre. On a les terrains, on a l'infrastructure pour le faire. Les gens ont voulu le faire. Est-ce que c'est faisable ailleurs? Non. Si Montréal veut faire ça, ce serait plus compliqué. Il faudrait que Montréal trouve sa propre solution, que Québec trouve sa propre solution. Il faut donc que les villes soient un peu autonomes. Mais jusqu'à quel point? Donc, c'est des questions auxquelles on peut réfléchir.
Oui, très intéressant. Merci. Maintenant, on passe à vous, Richard.
Okay. I didn't get all of that, but yeah, I mean, I think it's a very interesting time for cities. Increasingly, we live in cities. I mean, the percentage of the world's population that is urban rather than rural is skyrocketing. So it's a problem that will have to be solved. It seems to me that the defining characteristic really is not so much urban architecture, but power relations. And I think it's very interesting talking here. Philip was talking about autonomy, because I do think autonomy is a big issue here, but not just autonomy at the level of cities, because I'm not sure how viable that is, you know, if you take all the cities on the planet, but also autonomy at the level of individual human beings. That is to say, the ability of people to choose to live in the way that they want to. In an ideal world, I think in an ideal future, if you like, power relations would be devolving. That is to say, there'll be increasing levels of power filtering down through the system to very, very local levels, local committees, housing associations, things like this, enabling them to make decisions that work for them. And my problem, my worry, is that we seem to be heading in the opposite direction, because what we're seeing recently, anyway, is a return to autocracy. There seems to be a rolling back of the idea of democratic accountability and a return to the idea of strongmen and authoritarian figures. We're seeing, and we're not just talking about third world countries anymore, we're talking about, for the United States is the obvious example. It seems that we're running away from the future, we're terrified of it, and we are dealing with it very badly. And that's going to be a problem, because if you have very large numbers of young people cramming into these cities because that's the direction of travel. That's what's happening to the population globally. But those people are being disempowered at every turn. That power is returning upward into the hands of a very small number of people. Then you're heading for a crash. And you're going to end up with dystopian cities. You'll end up with cities where it won't be safe to travel, to go on the streets without being in an armored car. So my concern really is the social dynamics of the moment. There are a lot of very smart people working in urban architecture, in urban design, in related fields, but all of their ideas are going to be for nothing if we can't find a way to get a handle on this authoritarian knee-jerk that we seem to be going through at the moment. Because if power is concentrated in a small number of hands, and those people are very rich and powerful, they will not give a shit how the rest of us live. And that is going to be the defining characteristic of our future cities if we're not very careful.
Merci pour cette vision. Alors, Anne. À vous.
Je ne sais pas au nom de quoi parler, peut-être je suis historienne de l'art, alors on va peut-être partir de la vision qu'avaient des villes du futur, les gens des années 60, afin de voir dans quelle mesure c'est différent de la vision qu'on a aujourd'hui des villes du futur, ce que je vais essayer de faire. Alors je ne sais pas, peut-être il y en a nombreuses personnes parmi vous qui connaissent Super Studio, Archigram, tous ces studios d'architectes qui avaient été développés dans les années 60, 70, principalement en Italie et en Angleterre, enfin aussi dans d'autres pays, et qui étaient à l'époque des architectes sans cause, c'est-à-dire qui n'étaient employés à rien. Donc ils avaient des cabinets d'architectes et tout ce qu'on leur demandait de faire, c'était des tables, des objets. Enfin, ils n'arrivaient pas à faire de vrais projets d'architecture. Il y a quand même eu Kopp Himmelblau qui, lui, a vraiment réalisé ce studio qui est germanique cette fois, a vraiment réalisé des choses. Mais les autres, du coup, n'ayant rien à faire, ont fini par développer des modèles architecturaux de villes du futur. Et ce qui me frappe, c'est qu'ils les organisaient d'une façon qui est essentiellement horizontale, tout en étant terriblement technologique. Alors, je m'explique pour ceux qui n'ont pas ces images, pour ces leux plutôt, qui n'ont pas ces images dans la tête. Par exemple, le Super Studio, c'est ce carrelage blanc, hein, continuel, qui maintenant d'ailleurs est devenu une récurrence du design en quelque sorte. Et ils imaginent une ville entièrement carrelée, horizontale, plate, sans montagne, sans eau, sans rien. Et tout à coup, au milieu du carrelage, il y a une sorte de petite chose qui s'ouvre, un petit peu comme d'ailleurs l'image des utopiales, enfin comment dire, une sorte de bouche d'égout quoi, qui semble sortir comme ça, et des familles entières sortent, qui vivent une vie qui serait associée aujourd'hui pour nous à une vie à la campagne. On dresse une table, on fait à manger, on coupe du jambon, les enfants jouent de l'accordéon, enfin vous voyez, une sorte de monde comme ça, où les familles sont dispatchées sur un immense carrelage qui devient d'ailleurs une cité continue chez d'autres architectes, bon, la non-stop city, etc. Et très intéressant, le travail de donc Ron Haron, je ne sais pas si je le prononce très bien, Ron Haron, voilà, c'est meilleur. Le dit architecte, il avait carrément imaginé le monde d'aujourd'hui, mais d'une façon incroyable, puisque son idée, c'était qu'on se balade dans des toutes petites tentes personnelles associées à un niveau technologique extrêmement haut. Donc, vous êtes dans la campagne, vous êtes loin de tout, et tout à coup, il y a un arbre. Vous ouvrez l'arbre et vous vous pluguez sur l'arbre, véritablement. Donc là, vous avez tout. Vous branchez ce qui n'était pas encore l'iPhone, l'ordinateur, le machin, le truc, etc. Donc tout le monde branchait ces trucs et vous vous trouviez à égale distance en tout point d'un supermarché, d'un hôpital, d'une école, d'une université, etc. Donc une sorte de territoire conçu comme hyper technologique dans un espace entièrement horizontalisé et avec un souci écologique proche de zéro. Et c'est assez étonnant de voir comment le modèle d'aujourd'hui est complètement différent, puisque si on regarde un petit peu les espaces urbains du futur, je parle toujours du point de vue architectural pur, les gens imaginent des structures extrêmement verticales, couvertes de verdure verticalisée, hein, c'est très quelque chose qui revient sans arrêt, ou alors des choses un peu vertigineuses, des jardins suspendus, enfin, mais on est finalement dans un mode absolument écologique, puisque c'est des villes zéro carbone hein, dont on parlait, il y a vraiment eu des modèles qui ont été créés, inventés, peut-être pas encore vraiment mis en pratique, mais on a comme ça une sorte d'association étrange entre la verticalité qui se veut écologique et une horizontalité technologique qui par ailleurs rejoignait des modes de vie complètement, j'allais dire, traditionnels de façon de faire dans les... Donc c'est assez curieux de voir ce contraste et ça fait penser à l'influence finalement de la ville par essence, disons, pour les gens qui sont de... Enfin, disons, les Européens, les Américains, les gens qui sont centrés, disons, sur New York et sa représentation. Donc, l'espèce de fantasme de New York, il y a quand même un gamin sur deux qui dit que la capitale de l'Amérique, c'est bien New York. Enfin, c'est vraiment une ville fantastique, une ville fantôme, une ville extraordinaire. Et elle est basée sur la verticalité jusque dans la science-fiction. Que serait Superman sans les gratte-ciel? C'est même pas la peine d'y penser. Hein. Où voulez-vous qu'il s'accroche, le bonhomme? Donc, c'est ça qui est intéressant de voir comment ce modèle n'a pas été changé fondamentalement, ce modèle de verticalité extrême, alors même qu'on essaie de rendre les villes de plus en plus écologiques.
Oui, oui, c'est très intéressant, merci. Alors, et notre dernière vision, pour commencer.
我用中文来讲，感谢我的翻译会帮我翻译成法语。 我就说两小段，一个是在我自己之前的这个小说《北京折叠》中，我构造出来一个为 未来城市并不是一个非常令人满意的城市模型，它是一个蛮有点灰暗的这样的一个城市构想。在那样的一个城市里面呢，这个城市它是可以翻转折叠，所以就会被区分成不同的空间。第一空间呢，住着只有当时是我设计北京总共住8000万人，第一空间住500万人，然后他们可以有完整的24个小时。24小时之后呢，这个地面会翻转。第二空间的人出来活动，他们可以活动后面的这16个小时的白天时间。等他们有2500万人，等他们回去睡觉以后，第三空间的人只能在第二天的夜里出来活动8个小时，只有夜里的深夜。然后第三空间的人呢，大部分都是被人工智能自动化技术取代而失业的人。他们这部分人有5000万人口，这个人口实在是太大了，政府为了没有办法解决他们的就业问题和福利问题，只能把他们约束到第三空间里面，每48个小时只让他们出来8个小时，在这8个小时里让他们去处理一些做一些垃圾处理的工作。我觉得这不是一个很好的城市的想象。
Je vais peut-être parler de deux exemples. Le premier, donc, qui est une nouvelle que j'ai écrite, dont le titre. Alors, je crois qu'elle fait partie de l'anthologie des utopies. Elle a été traduite sur le titre de Pékin Origami, je crois. Donc, il parle de la ville de Pékin, l'imaginaire de la ville de Pékin. C'est pas un imaginaire très rose, plutôt sombre. Imaginez cette ville de Pékin qui peut être pliée ou qui peut pivoter, avec donc qui crée 3 types d'espaces différents. Un premier espace, plutôt l'espace des nantis, qui vont pouvoir profiter de 24 heures, entre 6h du matin le premier jour et 6h du matin le lendemain. Un deuxième espace où la population est plus nombreuse, qui vont pouvoir profiter de 18 heures. Puis un dernier espace, pendant lequel les 2 autres populations des 2 autres espaces sont endormies. Le dernier espace, le tiers espace, on pourrait dire, avec des ouvriers ou des anciens ouvriers qui ont perdu leur emploi, remplacés par des machines, et dont le seul travail qu'il reste finalement, c'est le recyclage des déchets, va vivre seulement 6 heures la nuit, c'est-à-dire les 6 heures restantes des 18 heures du deuxième espace. Donc c'est un imaginaire assez finalement dystopique de la ville du futur.
我之所以做这样的一个构想，并不是因为我认为未来城市一定会发展成这样，而是我想用一种比较鲜明的这个视觉化的表述，把这样的一个大量机器自动化取代大量人口失业，有很多这个贫困的底层劳动力这样的一个问题，用一个这个视觉化的比喻来表达出来，但并不是并不表明我认为未来的城市就会发展成这样。
Évidemment, si j'ai écrit cette histoire, c'est pas parce que c'est la ville que j'imagine dans le futur, simplement une manière pour moi de mettre en lumière certains aspects en donnant un aspect plus visuel à cette séparation entre différentes classes, au risque que peuvent avoir les classes les plus défavorisées qui pourraient être remplacées par des machines, et comment est-ce qu'on gère et comment est-ce qu'on sépare à la fois spatialement et temporellement différentes populations.
那我自己对于未来城市的一个比较实际的想法是什么样的呢？前几天我在中国听到说，中国有一家互联网公司在给中国的一个城市叫杭州做这个智能城市的规划。在他们规划的这样的一个互联网中，它能够连接起这个城市里面的每个角落，所有的信号灯，然后所有的街道，还有很多的房子，然后很多的摄像头等等，然后这个城市的交通物流等等都在这样的一个互联网数据平台中被监测了。当时有人说过一句话，看上去并不是像一个在城市上搭一座网，而是像在网络上搭一座城市。所以我自己觉得这个很有可能确实是未来城市的一个方向，就是先用这样的一个互联网技术计算出这个城市里面每一个角落里面，把所有的这些电子器件都连起来了，然后能够监测到这个城市里的每个人的每一个信息，监测到每一个手机，监测到每一个这个人的出行，然后把这所有的建筑都用这样的一个网络连接起来，以至于到后来这些建筑本身相互之间肯定会有一定的趋同性，因为他们都是 在用电子互联网连接起来的。
Pour les projets qu'il peut y avoir en Chine sur les villes du futur, il y a un exemple près de la ville de Hangzhou d'un projet de ville entièrement connectée où donc on, évidemment tout le monde pourrait avoir un accès Internet, mais tous les bâtiments en eux-mêmes et l'architecture en elle-même seraient connectés. Et donc tout le monde pourrait partager des informations, les transports publics pourraient être également connectés pour favoriser l'efficacité, etc. Donc ça fait partie des imaginaires, des villes imaginaires du futur éventuellement à créer. Peut-être si je peux me permettre moi en fait de rajouter quelques mots justement là-dessus, ça fera peut-être écho à la fois à ce que dit Ro Jingfang et puis les autres intervenants. En fait, en Chine, beaucoup de projets d'éco-cité ont pas vu le jour, mais ont été en tout cas prévus ou programmés. Il y en a notamment pas très loin de la ville de Shanghai, mais également à Tianjin. Et ça pose un petit peu les questions dont on parlait tout à l'heure, à savoir autant la question de la classe, qui est-ce qui va habiter dans ces villes. Un exemple dans l'éco-cité de Tianjin, par exemple, donc une cité écologiquement responsable, de l'eau qui est réutilisée, un recyclage des déchets efficace, etc. Mais extrêmement cher. Quand je dis extrêmement, je pèse mes mots. Et parmi les centaines de milliers d'habitants qui étaient prévus, seules quelques dizaines de milliers ont vraiment l'argent pour pouvoir habiter dans cette ville-là. Donc à la fois la construction d'une ville du futur éco-responsable, etc., mais destinée en fait à une population qui jouit déjà d'un certain nombre d'avantages, en fait. Donc qui est un des exemples en fait de projets presque utopiques, mais qui deviennent finalement des exemples de reproduction sociale, peut-être, d'un certain point de vue. Et en même temps, ça montre aussi une volonté de la part de la Chine de s'ouvrir à ces nouvelles technologies plus éco responsable, on va dire. Et je crois que ça inspire aussi la science-fiction. J'y pense juste comme ça, là. C'était pas prévu, mais peut-être certains parmi vous avaient lu Water Knife de Bachi Galupi, qui justement parle un petit peu de comment est-ce qu'on gère une ville après des catastrophes écologiques. Et il existe ce qu'il appelle des arcologies, c'est-à-dire des sortes de villes un peu renfermées sur elles-mêmes, un peu en vase clos, un peu comme les bonades urbaines de Silverberg, où tout est éco, on va dire, tout est recyclé à l'intérieur, et c'est exactement le même problème, c'est-à-dire que ce sont des cités qui sont uniquement accessibles aux gens qui ont beaucoup d'argent. Et le paradoxe, et ce qui est amusant, c'est que c'est pas un paradoxe d'ailleurs, un clin d'œil sans doute, dans ce roman de Bachi Galupi, qui est sorti l'année dernière, je crois, en français, traduit par Sarah Doc, les arcologies sont des productions chinoises.
Ah oui, intéressant. Alors, là, vous avez donné un peu votre vision de ces espaces urbains, surtout on est porté sur l'écologie dans cette discussion. Comment vous vous en servez d'une ville ou d'un espace urbain dans votre œuvre? Quelle est la fonction comment vous vous en servez? Ça sert à quoi, un espace urbain?
De décor.
Comment?
De décor, surtout.
Oui.
J'ai jamais eu de réflexion sur la manière dont j'employais les villes dans mes histoires, mais ça ne m'empêchera pas de répondre à la question. On va construire la réponse. Dans le principal diptyque de science-fiction que j'ai publié jusqu'à maintenant, le jeu du démiurge, les cités occupent une place importante dans l'intrigue, mais aussi dans le décor et dans l'organisation de l'arrière-monde. En y repensant, je vois qu'elles sont surtout un révélateur un peu du degré de technologie des post-humains que je mets en scène dans le roman, dans le diptyque, pardon. C'est un diptyque qui totalise 700 pages. C'est deux romans qui totalisent 700 pages. Il n'y a aucun être humain de toute l'histoire. Et les cités sont très excentriques parce qu'il y a un post-humain qui a créé ce que lui appelle une architecture sylvestre. C'est qu'il a créé des arbres artificiels, des arbres métallisés qui vont puiser les métaux à même le sol et que l'on peut programmer pour qu'ils grandissent rapidement et forment des charpentes de maisons ou de bâtiments. Et pour faciliter les choses, on peut même planter plusieurs arbres et ils vont finir par fusionner selon un plan très précis. Et il suffit après ça de combler les murs, les planchers, tout ça, tout en bois. Donc, c'est très écologique. Et en plus, ça va puiser les matériaux métalliques à même le sol. Donc, ce qui facilitait les choses. Le problème, c'est qu'il faut des fois penser un petit peu à tailler les murs parce qu'ils peuvent pousser selon leur propre volonté ou un peu. Ça me permettait de donner un décor assez excentrique. Je voulais dépayser le lecteur, mais en même temps, ça traduisait beaucoup le niveau de technologie des posthumains qu'il y avait dans ce roman-là, mais aussi la folie de certains d'entre eux, parce que le posthumain qui avait créé ce genre d'architecture-là était un peu mégalomaniaque, il avait des idées de grandeur, il était très excentrique, et c'était une façon aussi d'exprimer son excentricité. Donc, c'était un peu un révélateur aussi de personnages. Mais j'avoue que je me suis amusé à essayer d'imaginer des solutions écologiques particulières. Puis je trouvais que l'idée de créer un OGM, une plante qui était capable d'aller puiser les éléments dans le sol pour faire de l'architecture avec, et en plus, c'est écologique, c'est carboneutre, ça crée de l'oxygène, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Mais ce genre de matériaux-là, est-ce que ça serait maintenant envisageable pour nous? Bon, c'est pas impossible. Ben, n'est pas impossible. J'ai pas de base. Avec les OGM, je sais qu'on peut faire un tas de choses. Un tas de choses qui nous semblent impossibles aujourd'hui vont peut-être exister dans le futur. Alors, pourquoi pas, après tout? On peut rêver. C'est le but de la science-fiction aussi.
Oui. Et dans cette œuvre, alors, l'espace urbain était quelque chose de très actif.
Finalement,
parce que
ça, oui.
C'est organique, même.
Oui.
Oui, très intéressant. Alors, Richard, dans votre œuvre, what do these urban spaces do?
Well, most of my novels are extremely kinetic. There's a lot of violence, there's a lot of angst in them. So the cities form a backdrop to that, and so mostly they're pretty hellish places. I think it's an old noir trope. It's the city as maze, if you like. It's the Theseus myth, if you like, to find your way through the maze, whether it be in terms of detecting something, finding out what a crime that's been committed or whatever, or simply trying to survive. There is a lot of truth to that. I think I've lived in a number of different cities over the world, and one of the things you do when you first move to a new city is you learn it. You learn the system. You learn the transport networks, you learn the various availabilities, you learn which areas are no-go areas, for example, and so forth. So, I mean, I think that's something that's pretty much eternal. I don't think that's going away anywhere. But, yeah, I mean, I have to be honest. In order for my books to work, the cities end up being, you know, about as dangerous as I can justifiably make them.
Très positif, very positive. Alors, très violent. Anne, vous?
Oui, bon, ben, quant à moi, j'ai aucune vision ni du post-humain, ni de rien de tel, mais la ville a une importance énorme, tant dans le premier que le second que j'ai écrit. Dans le premier, effectivement, on a des villes déjà très grandes, tentaculaires, mais c'est encore plus marqué dans le second, où j'ai créé une sorte de ville qui engloberait à la fois Paris et Londres, et où dès lors, le channel serait vraiment un channel, c'est-à-dire ce serait un fleuve. On traverserait le fleuve pour aller du sud de Neo City jusqu'au nord de Neo City, qui serait le quartier Pancras. Enfin, c'est-à-dire une espèce de vision comme ça, où finalement les boulevards du nord de Paris se retrouvent être des boulevards du sud. Donc une cité énorme, et autour, une sorte de vide agricole, très, très, très dominé par des structures militaires de surveillance, et basé sur une alimentation vraiment élémentaire, basée sur céréales légumineuses plus quelques noisettes pour la vitamine B12. Enfin, une espèce de vision quand même, mais complètement l'inverse des post-humains, etc. Et j'ai appelé ça l'ère méga-vide. Alors, j'ai mis VIDH, c'est plus rigolo, mais ce serait, à mon avis, l'ère qui succéderait à l'ère cyborg. J'ai l'impression qu'on entre dans une sorte d'ère cyborg où il y a des quartz vibrants à la nanoseconde, une sorte de vision extraordinaire, les lumières, mais là on en est complètement, ça crache quoi, on est complètement illuminé, l'électricité, la pulsation constante de l'énergie qui nous envahit, et qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'énergie du tout, et si on se retrouvait finalement dans un post-humain, humain trop humain, si on peut dire, enfin, où il n'y ait vraiment plus que des pauvres humains rampants qui vivent dans des mini espaces de même pas. Alors, je mesure en décimètres carrés, hein, parce que comme j'ai l'habitude des surfaces exiguës et que c'est un de mes problèmes existentiels fondamentaux, ben, ma foi, c'est devenu le problème existentiel fondamental de mon héroïne qui vit. Alors, on a essayé de calculer 254,31 décimètres carrés. Enfin, vous voyez, des surfaces tellement petites que chaque personne est vraiment réduite à un tout petit espace. Et il me semble que ça correspond bien à ce qui pourrait être en réalité, c'est-à-dire de plus en plus d'individualisme, de plus en plus de vie solitaire dans des espaces minuscules, de moins en moins d'énergie à foison, malgré, je ne sais pas, Broadway, le magasin M&M's, enfin, je ne sais pas quels exemples prendre, de débauche de lumière, débauche d'énergie, où il y a toujours une espèce d'euphorie de la débauche d'énergie qui correspondrait à cette ère cyborg. Donc, bienvenue à l'ère méga vide, où il n'y aura plus rien, sinon des noisettes extrêmement chères pour compenser les carences en vitamine B. Voilà quelle est ma vision du futur, très gaie comme vous le voyez.
Bah oui, tout le monde a une vision super joyeuse, là. D'accord, à vous. Les noisettes super chères.
在我的小说里面，城市，如果我描写一个新的城市的话，它都还是有一定的功能。有的时候我会用一种类似于像比喻这样的做法。我曾经设计过一个在火星上的城市，一方面是因为这个从物理的角度，在火星上的城市用一个像气泡这样的玻璃的结构是比较好的。另一方面呢，我是想把火星那个城市写成一个就是未来的乌托邦式的，所以我把它的城市设计成一个全都四处连通的这种透明玻璃的圆顶透明玻璃这样的城市，但是四面连通，所以它非常透明，整个一个城市都像是就是水晶做成的。然后我是在这样的一个城市设计里面加上了一些对这种乌托邦的隐喻。
C'est vrai qu'à chaque fois qu'on écrit un roman, la ville va avoir une fonction particulière. Parmi donc deux romans que j'ai écrits autour des villes, dans l'une d'entre elles, j'imaginais une ville sur Mars. Et donc toutes les particularités physiques de Mars me permettaient de créer des nouvelles choses pour ma ville, des maisons en bulles, etc. Pour un autre nouvelle, j'ai créé une ville entièrement transparente, donc bâtie principalement avec en cristal, et donc des quatre murs dans tous les magasins, les maisons individuelles, tous les murs étaient transparents.
然后我还写过另外一个城市，就是有点像我刚才描述的我对城市未来想象，就是那个城市我是写的就是整个城市是建立在这个四面八方连通的钢铁架子上的，这个钢铁架子连接在一起，连得非常非常的远，非常的广，在这个钢铁架子上面有一些平台上面有一些建筑，所以呢我是把这个城市写成一个非常非常广大的像是网络一样的结构，而建筑房子是搭在这样的网络上面的，所以它其实就是我刚才想要表达的那种未来呢，可能就会有这样的网络，把这个城市里的所有建筑都连接起来，你在这个城市里面的每一个足迹都会被这个城市记录下来。我那个是写了一个未来这个互联网统治我们所有人的这个故事，所以我也是把这样的一个比喻用城市的方式来表达出来。
Encore deux autres écrits autour de cette question de la ville. J'imagine une ville, donc là encore une fois encore transparente, qui permet d'accéder à n'importe quel coin de la ville sur des espèces d'immenses échafaudages. Bon, c'est moi qui traduis mal, mais structure métallique, on va dire, où les gens peuvent se promener d'un coin à l'autre de la ville comme un immense réseau. C'était un peu ce que je disais tout à l'heure concernant les villes du futur que j'imagine, et cet exemple d'une ville ultra connectée où finalement la moindre empreinte laissée par vous reste pour toujours dans la ville, donc s'envisage sur un immense réseau. Et encore une autre histoire où c'est le réseau lui-même et les sociétés qui gèrent les réseaux qui contrôlent la population, à savoir la ville ultra connectée comme un moyen de contrôle également.
Non, allez-y.
我只是说，就是城市，我一般在故事里面会作为背景，但是我会把它设定的和这个故事的主题以及我想要探讨的话题相一致。
Voilà, et donc quand j'écris la ville telle que je la conçois, j'essaie de la faire au plus proche du sujet dont j'ai envie de parler.
Très bien. Alors, on a des visions un peu pessimistes, comme on vient de dire. Donc, pourquoi dans vos œuvres, la ville qui incarne aussi le progrès, la technologie, l'avancement, pourquoi elle est aussi dystopique et aussi cauchemardesque? Qu'est-ce qu'il y a dans l'urbain qui nous pousse vers ce cauchemar? Et est-ce que ça existe en campagne ou non? la campagne, je me sens moins cauchemardesque. Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace urbain qui vous pousse, qui vous inspire ce pessimisme?
Personnellement, je suis pas pessimiste. Je trouve que la question s'applique pas vraiment à moi, je peux tenter une réponse. C'est parce que c'est vrai que la ville inspire quelque chose de négatif. Toujours, mais est-ce que c'est à cause de la surpopulation, de la saleté? Est-ce que la ville est associée à la vermine? Il y a toujours une image, hein, les champs, la campagne, la nature, le soleil, versus la ville, la poussière, le bruit, la surpopulation. Donc, c'est négatif. Et pourtant, quand on y pense, il me semble que j'ai déjà lu des articles qui expliquaient que New York, à sa manière, était une ville extrêmement écologique. Si on tient compte du fait, la quantité de gens qui sont concentrés en aussi peu, dans un aussi petit espace, génère beaucoup moins de déchets, relativement parlant, que certains villages, qui ont l'air écologiques. Bon, il faudrait que je vérifie, là. C'est peut-être ça, la raison. Mais personnellement, je n'associe pas la ville à quelque chose de négatif.
Oui,
mais
je n'ai
pas de raison.
Vous avez plutôt cette vision à éco de l'avenir. Donc, ouais. Pourquoi la ville, comment elle pourrait servir pour les bonnes choses alors? La ville éco, ça, vous parlez de New York et comment c'est plus écologique que les villages. Donc vous voyez une vision de la ville qui pourrait être plus éco qu'un village.
Oui, disons que ça pourrait être mieux qu'en ce moment, mais je crois qu'il y a une façon d'organiser les choses pour que ce soit mieux.
Oui.
Aussi, je crois que les faits le prouvent et comme je le disais aux Utopies l'année passée, je suis un optimiste volontaire aussi. Je crois qu'il y a des beaux projets urbains qui peuvent être mis en place pour améliorer les choses. Je ne sais pas quelle est la situation en France ou en Europe, mais je sais qu'au Québec, on voit de plus en plus des bâtiments avec des murs de végétation à l'intérieur. On veut faire de l'agriculture urbaine, des murs de végétation à l'extérieur aussi. On voit des initiatives qui apparaissent. Donc, il y a de quoi. Il faut juste le faire un peu. Mais pour ce qui est en effet de pourquoi la ville est négative, je pense que Richard, do you have an opinion?
Yeah, we're the problem, really. We are humans. I think there's an enormous amount of technology and know-how as well. I mean, the rate of technological change is accelerating all the time, and there are lots of really good ideas out there as well. People are finding solutions for things, but you have to have the social and political will to use that. And, you know, so far we're lacking in that. I mean, again, I'm not a pessimist as such. I'd agree with Philippe. You have to look at what we've achieved as a species. We were designed to live in groups of maybe 50 to 100 interrelated people and to move around a lot. And we don't. So we now live in... I was in Shanghai recently, and, I mean, that's a city of a colossal number of people. They did tell me, I've forgotten, but it was a lot. 40 million, is it? Something like that. Colossal number of people. And they're all behaving more or less, you know. I mean, there's crime, there's a police force, but fundamentally it's a city of people that get along. So it's not pessimism, but at the same time we have to recognize that we are human and we're not going to get modified out of that anytime soon. So humans do behave in certain ways. So one of the things you see is atomization. As people get the capacity to isolate themselves, put themselves into groups with other people like them, that's what happens. You see it in American cities a lot with this thing they call white flight, which is basically where white middle class people, as soon as people who have got black skin move into the area, they go, whoa, we're out of here, and they're gone. And you end up with what amounts to a series of gated communities. But this is not some sort of distorted evil. This is just the way humans are. People, we like to surround ourselves with people that we feel are like us. And if you look at any immigrant city, what you will see, and obviously in the Americas, all cities are immigrant cities because everybody, apart from the Native Americans who've been more or less wiped out, everybody's an immigrant. And what you see is a pattern of where a new group of immigrants arrive, and they will set up shop in a small area of that city because they feel safe that way. They're people who speak their language, who understand their customs, and this is perfectly normal. It's not very good in terms of cohesion, in terms of making a city where everybody rubs along together. Because obviously, if you don't get out of your particular ghetto, you're only rubbing along with people who are like you. You don't necessarily understand that there are other people who aren't like you. And I mean, if you could identify what the problem of America as a society, as an experiment is, it is that it's an enormous place with a lot of different people, but it's only in the recent technological past that those people have all realized that there are other Americans who aren't like them. You know, until very recently, most people in America lived in the town or city that they were born in. Probably they might travel a little bit around, maybe visit another city once or twice. Fundamentally, their lives were located where they grew up. And what seems to have happened is that people have suddenly understood that, oh my God, there are 300 and something million of us, and we've got radically different outlooks and attitudes and religions and cultural assumptions. And that seems to have given America a nervous breakdown, the inability to cope with difference. But again, it's very human. It's what we're like. We react badly to difference. We react badly to change. So I'm not pessimistic, but at the same time, you've got to accept the human limitations on what we can do. And as I said, the technology is not the issue. There's a lot of fascinating technology out there, and we could do an amazing number of things with it, but we haven't. And the one I like to throw out, which is not really city-related, but there is no good reason why anybody on this planet needs to starve or die of a preventable disease. But they still do, by the tens of thousands. We could prevent the death of children through poverty on the entire planet very easily. We have the resources, we have the technology to do it, but we don't. And that's down to who we are. That's down to who we are as a species. We are violent apes. That's not an easy fix. I think we've done remarkably well. Here we have millions of violent apes living in small spaces with each other, and we mostly don't kill each other. But it's a halfway victory, you know? And utopian visions don't fit with who we are as a species. So unless you're going to modify the human genome so we become some other kind of species, which doesn't appeal to me, certainly, I don't... we're always going to have these problems. We're always going to have these issues of tribalism, of crime, of free riders in society, this kind of thing. It's not going to go away. We just have to find ways to govern it. And I think, as I said, devolution of power is the big issue here, because generally speaking, the more empowered and resource-rich you feel, the more likely you are to feel generous towards other people, the more likely you are to feel open. What makes people close off is a sense of being under threat. So as long as the power is devolved upwards, as long as the wealth is devolved upwards, you've always going to these pressures are going to be enormous. The only way to reduce them is to attempt to devolve power downwards. And that, as I said, politically just seems to be very unpopular at the moment. But the issue really is genetic. It's who we are.
Donc, ce n'est pas la ville elle-même, c'est nous aussi qui construisons les villes. Anne, pour vous.
Donc, du coup, je ne sais plus trop quelle était la question. Là,
la question...
Oui, c'était pourquoi est-on si pessimiste?
Alors, oui, pourquoi ça donne un cauchemar quand c'est aussi un symbole du progrès?
Ben, c'est vrai que tout à l'heure, quand elle a parlé de ville de cristal, j'ai eu d'un seul coup une vision merveilleuse, hein, libérée, délivrée, et du cristal, et c'était magnifique. Mais ça, c'est le Crystal Palace, hein, c'est le palais de cristal. Et maintenant, on imagine 50 palais de cristal les uns à côté des autres, ça commence à devenir un peu inquiétant. Et on pense à certains romans dystopiques, par exemple celui qui était traduit longtemps par le sous le titre « Nous autres », où ils vivent dans des villes entièrement de verre, qui rappellent un petit peu, disons, Jacques Tati, là, le machin de Jacques Tati, j'ai oublié, le... Bon, oui, Playtime, voilà, où ils sont donc en pleine visibilité derrière le verre. Donc d'un seul coup, c'est pas le palais de verre qui inquiète, c'est la multiplicité. Alors bon, la ville en tant que quelque chose d'inquiétant, je crois que c'est un pensif, hein, c'est triste à dire. Je crois me souvenir qu'au XVIe siècle, par exemple, prenons Shakespeare, tiens, comme il vous plaira, quand le comte je ne sais plus quoi, qui a été chassé pour des raisons politiques, arrive dans la nature, dans la forêt, il dit « Ah, c'est bien, la nature abat la cour, abat la ville, abat ces choses-là. Ici, enfin, on est dans la vraie nature, il y a des vraies bêtes avec des vrais problèmes, à savoir j'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim, et je n'ai pas mon vin fin habituel, etc. » Et donc, c'est vraiment impensif. Alors, pour quelqu'un qui habite comme moi dans un village de 5000 habitants, enfin, une petite ville qui passe à 35 000 l'été, hein, c'est légèrement balnéaire. On est étonné de voir, par exemple, ma voisine qui fait du feu. Alors, elle prend des pneus. Et puis ensuite, elle demande à tous les voisins d'apporter les restes d'huile de vidange. Et tout le monde met l'huile de vidange sur les pneus. Et on fait brûler tout ça. Ensuite, tout le monde prend des camions énormes pour aller au Jiffy, au Carrefour, acheter des quantités industrielles de nourriture qui sont mises ensuite dans des congélateurs géants. Enfin, je crois que le mythe de la campagne... Bon, j'ajoute à ça qu'il y a au loin FINA, enfin la société FINA, il y a des pipelines, le truc est classé danger maximal, etc. Et tout ça, c'est un pays charmant avec la garrigue, la mer, le soleil. Et, enfin, c'est tout à fait délicieux. Donc, je crois qu'on a une vision complètement fausse de la campagne comme espace écologique, etc. Non, la campagne, on a Mélanie Wilson qui, avec sa tronçonneuse, démolit des arbres à demi pourris et comme il ne démarre pas, le feu ne démarre pas, elle y met une bonne dose d'huile et là, ça démarre. Pour moi, c'est ça la campagne, c'est les allers-retours en bagnole pour aller chercher machin à la gare, pour aller ci, pour aller ça. Donc, dépenses astronomiques. J'ai pas du tout une vision positive de la campagne. C'est pas pour ça qu'il faut avoir une vision négative de la ville, mais alors, je sais pas, je finirai sur une citation Baudelaire, n'importe où dehors du monde. Où aller, hein, ni la ville, ni la campagne, je sais vraiment pas ce qu'on peut faire et où se réfugier. Sur Mars, peut-être, ou dans un palais de cristal.
Mais ouais, dans un espace urbain, sur Mars.
Alors, mais c'est vrai quand même qu'on a une vision étonnamment horrible de l'espace urbain. C'est la ville des rats, la ville de la criminalité. Enfin, la ville, c'est les rats, la criminalité, la promiscuité, la pauvreté, les bas-fonds, etc. Et dans de nombreux romans, là, tout à l'heure, quand on parlait de la Chine, j'étais en train de penser au roman de Catherine Dufour, Le goût de l'immortalité, où là encore, on a une espèce de verticalité de la ville, hein, toujours cette verticalité, avec en bas les gens les plus pauvres, les plus misérables, les plus malades, etc. Et peu à peu, à la fin, les grands chinois, les grands sages traditionnels, qui eux sont les maîtres du monde, car ils ont su associer leur sagesse traditionnelle zen à de fortes subsides, de forts subsides en matière d'économie. Donc on a cette vision dans ces romans-là. Donc toujours, toujours cette ville négative dans tous les romans, qu'ils soient de science-fiction ou autre, peut-être bien, semblerait.
Ah oui, c'est pas oui. Le propre de la SF du tout.
Non, non, c'est toujours, je crois qu'on a une vision horrible de la ville et que c'est une vision générale qui dépasse largement les romans écrits par tel ou tel. Sachant que de mon point de vue, j'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de très triste, enfin de très pessimiste non plus, non. Mais simplement de montrer comment on est dans un espace extensif. Et dès qu'une ville est trop grande, il y a des tout petits espaces qui se créent. On peut penser à Bangkok, par exemple. Je ne sais plus combien il y a de millions d'habitants à Bangkok, mais personne ne dépasse le quartier dans lequel il est né et où il a tous ses copains. Et finalement, on retrouve une espèce de maillage qui n'est pas sans évoquer justement les travaux des types dont je parlais tout à l'heure dans les années 60-70. Quoi. C'est un petit peu encore le même genre de choses, quoi, le même genre de rapport à la vie urbaine. Donc voilà, la vraie désespérance, ce serait qu'on ne peut plus être ni à la ville ni à la campagne.
Ah oui, parce qu'on va où après ?
Où aller après ? Donc c'est peut-être la dichotomie elle-même qui est à revoir. C'est-à-dire l'opposition ville-campagne n'est peut-être pas si déterminante et peut-être faudrait-il imaginer une ville-campagne. Hein, comme disait, je ne sais plus, Alphonse Allais, on ferait bien d'installer les villes à la campagne, l'air y est beaucoup plus pur. Donc je crois que c'est là-dessus que...
Oui, merci Anne. Alors, à vous.
我就简单说一点看法。为什么我们谈到城市的时候，经常容易有一种悲观的印象？其实是因为我觉得我们在城市里面能把很多问题暴露出来。城市里面大家都住到一起，住得很集中，所以有任何的不好的负面的情况就非常容易暴露出来。其实在乡下也有，就是在很久以前大家都住在乡下的时候，也同样有这个暴力事件，也同样有欺诈，也同样有垃圾，也同样有很多事情，但是大家都住得太远了，这样的事件的发生的很少，就是别人也不知道，然后没有那么暴露出来。但是在城市里面，我们大家住在一起，人口一多，所有的这些问题就会汇集到一起，所以我们会看到这个城市的问题比较多。但其实所有的事情，就像刚才这位作者讲的一样，它都是人性里面的，我们都是永恒一以贯之的，只是在城市里面我们会看得更清楚。
Quelques mots sur mon regard sur la raison pour laquelle la ville est peut-être inspire le pessimisme et souvent vue de façon plutôt négative. C'est aussi dû à la proximité entre les gens, c'est-à-dire qu'on a peut-être des problèmes en ville qu'on trouve également à la campagne. Il y a aussi de la violence, des meurtres, des déchets à la campagne. Simplement le fait qu'en ville tout le monde habite juste à côté, contrairement peut-être à la campagne où les distances sont plus importantes, font que tous ces problèmes propres à l'espèce humaine dont parlait M. Morgan tout à l'heure ressurgissent et sont exposés de façon beaucoup plus visible qu'à la campagne. Ce qui fait finalement que la ville peut paraître comme étant bien plus terrible que la campagne. En fait, la ville, c'est un peu comme une loupe ou un zoom pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que pour le pire, dans le sens où toute l'agressivité, la violence ou l'appréhension ou les agressions qui peuvent exister entre plusieurs personnes seront effectivement beaucoup plus visibles et beaucoup plus intenses. Et en même temps, pour le meilleur aussi, parce que l'amitié, les relations qui peuvent se nouer entre des personnes sont peut-être plus intenses également en ville. Donc la ville, c'est un peu le révélateur aussi de l'humanité en tant que telle, à la fois de ses bons et de ses mauvais côtés.
Très bien, merci à vous tous. Alors là, il est l'heure, mais si on a une petite question pour nos auteurs, on pourrait la prendre. Oui, là-bas.
Bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup entendu parler d'agressivité au niveau du milieu urbain, sur le fait qu'il y ait de la criminalité. Mais quand on voit des villes, par exemple, comme Singapour, qui a justement un système répressif quand même assez poussé, des systèmes de canning, donc la criminalité est assez faible. Et c'est vrai que c'est un système urbain qui est très écologique, très adapté à l'homme. Et quand vous habitez, par exemple, dans une autre ville en Asie, vous arrivez à Singapour, c'est très, très fléché, ça fait du bien, c'est très, très clair. Et au bout de quelques jours, ça crée un malaise. Car on a un sentiment, justement, de vivre un petit peu dans un mode dystopique, complètement. Et ça se demandait si, en fait, au final, on doit s'adapter, la ville est censée s'adapter à l'homme, ou si, en fait, l'homme doit s'adapter à la ville. Parce que c'est ce sentiment qu'on a dans une ville comme Singapour, où on a l'impression, au bout de plusieurs jours, de vivre dans le meilleur des mondes.
Très bien. Alors, quelqu'un voudrait répondre ? C'est à qui a changé, la ville ou l'homme ?
Ça fait Truman Show, quoi. C'est exactement comme dans le Truman Show, la ville complètement, où l'humain, effectivement, et on ne sait pas qui doit s'adapter à qui.
I think in the case of Singapore, it's not that there's no crime, it's that all of the crime belongs to the upper echelon who are repressing everybody else. So crime hasn't gone away, it's just been concentrated like the wealth. So, you know, that's only good if you think that low-level street crime's a problem, but high-level corruption and repression is not. As to adaptation, I don't know. We're a hierarchical species. We seem to be happy having people telling us what to do. I'd like to think that with increasing technological empowerment, we can devolve that and looking at making decisions for ourselves. I'm not sure that most of us are actually that good at that. I honestly don't know. Democracy is an attempt to basically, instead of having the power, have an eye on the people who do have the power. And that seems to work reasonably well. I mean, it's by no means a perfect system, but it does seem to work reasonably well. So I think certainly the Singapore model is a dead end. And to be honest with you, the Singapore model, okay, it works now. Give it another 30, 40, 50 years, it will explode if it doesn't change. I mean, this is what you see. All societies that are very, very repressive, ultimately there is an explosion, simply because younger and younger people are coming up, and that forms a pressure, and it's like a volcano. Eventually it blows. So you've got to be able to let the pressure off.
Alors, je crois que c'est la musique de sortie. Bon,
okay.
Ben... Merci à nos auteurs et merci à vous tous d'avoir été présents pour cette discussion. Bonne journée, bonne utopiale.